Salut, bienvenue sur Be My Fétiche, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer certaines paraphilies légales comme le fétichisme, le BDSM et bien d'autres pratiques afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte ni un tabou et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à des pratiques toutes consenties, mais pouvant choquer, surprendre et heurter certaines personnes. L'épisode fait notamment mention du fist fucking et du foot fucking. Pour ce nouvel épisode qui sera divisé en deux parties, je reçois Juan Carlos de la Fistinière qui va nous parler de spiritualité et de sa passion, le fist fucking. Dans la première partie de cet épisode, Juan nous expliquera à quoi correspond cette pratique, pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi tabou et quelle est son expérience en tant que fisteur et fisté. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Je suis Juan Carlos de la Fistinière. J'ai 59 ans. Je suis un gay cis masculin. Je me suis rendu compte que j'étais gay, je pense, dans le berceau. J'ai commencé très tôt ma sexualité. Et j'ai toujours été un mélange de sexualité et de spiritualité. C'est ce qui m'identifie. Avec mon mari François, nous avons créé la Fistinière, une maison d'hôte qui était dédiée à la pratique du fistfucking. Et nous avons eu la chance de voir évoluer cette maison pour accueillir des gens de quasiment tous les continents. Et aujourd'hui, bon, la Fistinière, nous avons arrêté cette activité d'hébergement des maisons d'hôtes en janvier 2019. Et aujourd'hui, la Fistinière bon, a évolué pour faire autre chose.
D'accord. On en parlera justement un peu après. Donc, tu nous as parlé de fist fucking. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette pratique? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, déjà, ça vient de l'anglais. Fist, c'est point. Et le fucking, c'est la pénétration avec la main. En français, on a essayé de traduire ça par poinglage. Qui représentait un peu l'action de pénétrer un anus ou un vagin avec le poing, la main. Quand on dit fist, on imagine que c'est directement le poing qu'on va rentrer, mais en fait, ce sont d'abord les doigts et ensuite la main pour ensuite, plus tard, quand c'est bien dilaté, le poing. Cette pratique s'est faite, comme je le disais, par voie anale ou vaginale. Donc en fait, toute personne normalement constituée anatomiquement peut vivre ce plaisir énormissime qui est de s'ouvrir pour recevoir en soi là où les mains de quelqu'un.
D'accord, donc il peut y avoir non pas une seule main mais plusieurs, c'est ça?
Oui, enfin plusieurs. Déjà deux, c'est pas mal.
D'accord.
Trois, c'est très rare. Mais ça arrive, et puis 4, bon, il y a beaucoup qui rêvent, certains sont arrivés, mais c'est vraiment rarissime.
D'accord. Oui, parce que là, sur le plan anatomique, il y a un moment, il y a les... moi, je pense qu'on finit par toucher les os, quoi, à un moment.
On touche toujours les os, mais en fait, chaque personne est différente. L'anatomie de chaque corps est différente aussi. Et du coup, ça va dépendre de la capacité du corps de la personne à se relâcher, à on va dire s'écarter. Et donc, il y a des personnes qui ne pourront quasiment jamais prendre plus de deux mains parce que c'est déjà un grand effort. Et d'autres qui, naturellement, sont hyper laxes. Donc, elles vont avoir une facilité à prendre du volume.
D'accord. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur plus cérébral, psychologique, par rapport à l'état dans lequel on va être au moment d'essayer cette pratique. Et aussi un facteur physionomique, par rapport à notre constitution.
Oui. Il faut savoir que le fist commence par la tête. Ce n'est pas une pratique qui vient comme ça naturellement, bien que ça peut venir naturellement chez certaines personnes. Mais c'est une pratique qu'il faut désirer. Déjà, avoir l'idée de recevoir une main dans son anus ou dans son vagin, et, ou l'idée de mettre la main dans ces orifices-là, ça commence par la tête. Il y a déjà une excitation qui elle-même va se répercuter par, dans le corps pour pouvoir faciliter cette pénétration. Et quand je dis que physiologiquement, si la personne est normalement constituée, ça veut dire que si la personne n'a pas eu de problèmes, de maladies, d'opérations, etc., qui empêchent cette dilatation, n'importe qui peut recevoir ses grands plaisirs.
D'accord. Et là, pour l'instant, tu as parlé de poings, de mains, mais il existe aussi une variante donc, de cette pratique qu'on appelle en anglais le foot fucking. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Le foot fucking est le frère jumeau du fist fucking. En fait, c'est la pénétration avec le pied.
D'accord.
Alors, en principe, on ne rentre pas tout le pied. On va jusqu'à le cou du pied et jusqu'au talon, donc sans réussir à le rentrer. Mais si la personne s'ouvre bien et que le donneur ou la donneuse donne son pied correctement, on va dire, qui est souple, de façon souple, le pied peut passer. Et là, on va parler d'un foot fucking qui peut être profond, où le pied va avancer dans l'intestin. Et donc, on va voir la cheville passer et puis ensuite une partie de la jambe.
Mmh. Et du coup, tu viens justement d'en le dire, il y a cette idée de va-et-vient à l'intérieur du coup de l'anus, du rectum ou des intestins, ou à l'intérieur d'abord au niveau de la vulve et ensuite du vagin pour les personnes qui en ont.
Tout à fait. Il y a, comme pour toute pénétration, il faut le faire avec douceur, il faut le faire avec enthousiasme aussi, avec conviction. Je pense que c'est ce que je dis dans les ateliers. Pour réussir un fist, il y a trois clés qui sont importantes et qui s'appliquent aussi à beaucoup d'autres pratiques. C'est l'attention, l'intuition et l'attention. Donc, il y a, quand on veut l'intention, c'est ce que, la volonté que l'on met pour faire quelque chose. L'intuition, c'est comment on va percevoir la personne, que ce soit dans le cadre du fist fucking ou n'importe quelle sexualité. Et puis l'attention de savoir comment réagit la personne, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ça se fasse d'une façon correcte. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, évidemment, comme pour la plupart des sexualités, sinon pas toutes, si ce n'est pas toutes, c'est l'orgasme. Avoir cette libération d'énergie. Un orgasme, ce n'est pas seulement éjaculer, ce n'est pas seulement avoir ces vagues qui vont réagir dans l'organe sexuel, c'est vraiment tout le corps, un orgasme total, où on sent que ces vagues de plaisir sont en répétition. Les personnes ayant un vagin peuvent vivre ça d'une façon beaucoup plus facilement que les personnes qui n'avons qu'un pénis. Mais avec l'anus, on peut vivre cet orgasme anal qui se rapproche, d'après les personnes qui ont vécu les deux, de cet orgasme vaginal qui est par vague, qui va durer un certain temps et qui fait jouir vraiment de la tête, du corps, de l'esprit. On est en communion avec l'univers entier. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle en français, la petite mort, le moment de l'orgasme. Parce que c'est le moment où on s'abandonne. C'est le moment où vraiment on est soi véritablement et on n'est plus soi en même temps.
Juste un petit peu transcendé par le plaisir peut-être ?
Oui, c'est ça. C'est ça. Et l'avantage du fist, c'est que chaque pratique est différente à la précédente.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que chaque sensation, chaque jouissance, chaque orgasme est unique dans son moment. Quand c'est bien fait, quand on jouit vraiment, on se dit « Oh là là, j'ai jamais vécu ça auparavant. » Mais il se trouve que la fois d'après, on peut dire la même chose. Pourquoi ? Parce que les sensations sont à nouveau produites, mais pas reproduites, et que le stimuli qui va venir agir pour toutes les... Et que tous les neurones, que tous les nerfs, que toutes les glandes participent, vraiment, on va dire que les fistes se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Ça peut être avec la même personne, les mêmes endroits, mais bon, chaque fiste est unique.
Et justement, tu as utilisé donc les termes d'orgasme, de jouir et on a aussi parlé d'éjaculation. Effectivement, il faut bien préciser que ce sont trois choses différentes. C'est trois réactions physiques, voire émotionnelles, psychologiques. Mais donc l'éjaculation, c'est le fait qu'effectivement, il y a du liquide, donc la cyprine, c'est chez les personnes donc à vulve, un vagin. Et chez les personnes qui ont un pénis, on va parler de sperme. Et donc ça, c'est l'éjaculation qui se produit chez les deux. Et l'orgasme, ça va plus être cette sensation, comme tu disais, de vague, de plaisir intense qui va traverser tout le corps. Et il peut y avoir un orgasme sans qu'il y ait d'éjaculation. Et il peut y avoir une éjaculation sans forcément qu'il y ait un orgasme. Et quand on dit jouir, parfois, c'est un peu un mot qui est utilisé comme ça, soit pour décrire l'un ou pour décrire l'autre, si je comprends
Je
bien.
dirais que le mot jouir va être entre les deux, qui va représenter les deux. Effectivement, on peut avoir une éjaculation sans avoir un orgasme, et on peut avoir un orgasme sans forcément éjaculer. L'orgasme, c'est quoi? C'est l'ensemble des sensations, d'émotions, qui sont produites à un moment de plaisir, où ce plaisir arrive à son point culminant. Et ce point, ça va être quoi? C'est de se sentir vraiment dans une espèce d'explosion des sentiments où il y a le bonheur, c'est pour ça que je parle de spiritualité, parce que pour moi l'orgasme est la partie la plus véritable de la spiritualité. Pourquoi véritable? Parce que c'est la chose que nous vivons, que nous pouvons vivre individuellement ou collectivement, et qui va nous rapprocher de ce qui existe, mais qui n'est pas tangible, qui n'est pas mesurable. Et donc l'esprit, pour moi, c'est ça la spiritualité, ce n'est pas que la religion. La spiritualité, c'est aussi notre rapport avec nous-mêmes, notre rapport avec les autres, avec l'autre, avec ceux qui nous entourent, mais aussi dans la conscience que nous faisons partie d'un tout. Quand on fait un orgasme tout seul, on se fait plaisir, évidemment, et l'orgasme est un plaisir qui va nous donner une satisfaction. Quand on fait un orgasme avec une autre personne, il y a les énergies de ces deux personnes qui vont se fusionner pour que les deux arrivent vraiment à une extase qu'on peut retrouver, que ce soit quand on écoute de la musique, quand on voit, je ne sais pas, une œuvre d'art, quand on fait de la peinture. L'orgasme et l'extase, ce sont des émotions, ce sont des situations, je dirais, psychologique, spirituel, émotionnel et physiologique, qui vont procurer un énorme plaisir et du bonheur. Donc, oui, on peut avoir un orgasme sans éjaculer, inversement. Et jouir, pour moi, c'est les deux, parce qu'on jouit d'une situation, on jouit du corps, on jouit la jouissance, c'est le plaisir, en fait. C'est le plaisir d'être, de faire, de recevoir, d'avoir ses plaisirs, tout simplement.
D'accord. Et justement, juste avant, donc on a dit que le fist fucking, ça pouvait être pratiqué par les personnes donc qui ont un anus et par les personnes aussi qui ont un vagin. Pourtant, un des stéréotypes qu'il y a avec le fist fucking, c'est que c'est une pratique qui est généralement associée à la communauté gay, donc des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Mais du coup, est-ce qu'elle est uniquement pratiquée chez les hommes gays ou, comme tu viens de dire, il y a aussi d'autres personnes
Non,
qui le
non,
pratiquent?
je pense que le fist le plus communément pratiqué, c'est le fist vaginal, parce que chez une personne ayant un vagin, elle va pouvoir le pratiquer sans avoir beaucoup de préparation. Et à mon avis, que ce soit dans la communauté lesbienne comme dans d'autres situations hétérosexuelles, le fist vaginal, à mon avis, il date depuis très très longtemps. Après, dans le fist anal, il y a la culture qui va nous dire que c'est quelque chose réservé OPD, que c'est quelque chose de dégradant. Pourquoi? Parce que quand on touche à l'anus, on touche à quelque chose qui est devenu presque, j'allais dire sacré, mais dans le sens où interdit. La religion, mais c'est surtout la société, a explicité que l'anus, surtout chez un garçon, c'était sale, il ne fallait pas toucher, et que si jamais on touchait, on devenait déjà un gros PD. Donc, je pense que quand on pratique le fistfucking, on a déjà abattu beaucoup d'obstacles socioculturels qui nous interdisent d'avoir du plaisir. Or, l'anus est un organe qui est indispensable et qui fonctionne tout le temps. Quand on tousse, quand on se lève, quand on marche, quand on dort, évidemment quand on va aux toilettes, quand on chante, l'anus, je dirais que c'est l'ensemble des muscles qui sont les plus sollicités du corps, parce qu'ils réagissent tout le temps. Et quand on a mal au cul, ben on a vraiment mal au cul, on ne peut pas bouger, on peut marcher difficilement, donc voilà. Et je pense que c'est propre à notre culture occidentale. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans d'autres cultures, mais en tout cas, au Moyen-Âge, par exemple, l'anus était considéré comme quelque chose d'important parce qu'on allait suministrer des médicaments avec le clister, donc des lavements curatifs, ou alors on allait examiner les selles pour savoir si la personne avait une nourriture qui était plus ou moins convenable.
Pour évaluer du coup son état de santé.
Voilà, exactement. Mais je pense qu'au 19e siècle, le puritanisme est arrivé à un degré très important où les stéréotypes ont été plantés, les stéréotypes masculins et féminins, avec les rôles qui étaient imposés à l'un et à l'autre.
Les normes de genre.
La virilité était associée à la force, dans tous les sens, c'est-à-dire qu'un mec viril ne pleure pas, ne se plaint pas, surtout il ne se laisse pas toucher son cul. Il est, on va dire, le défenseur de tous les trucs qu'il a trouvés. Chez un homme, ça va être considéré comme un grand pouvoir. Chez une femme, au contraire, ça va être la dévotion, la chasteté, la soumission, quelque part. Et donc, ce sont des stéréotypes qui ont scindé les deux genres dans ce schéma qui, aujourd'hui, est en train de s'effondrer, de s'effondrer même. Parce que, au cours de l'histoire, on s'est aperçu que ces relations-là, ces rapports-là, n'étaient pas forcément aussi noirs et aussi blancs. Donc, je pense que le fist est fait pour toutes les personnes. Et après, la question de l'anus, c'est apprendre à se connaître. Moi, je dirais que pour se connaître soi-même, il faut connaître son anus. C'est-à-dire que soi-même, de par l'éducation, on ne se regarde pas forcément l'anus. On se dit, mais non. Et moi, j'invite les personnes qui vont aux ateliers, ou même les personnes tout court, de se regarder dans un miroir son anus.
Comme on fait aussi, comme on conseille parfois de le faire aux personnes qui ont une vulve, on leur conseille de prendre un miroir et de se mettre par exemple dans leur salle de bain et de regarder leur vulve, de voir à quoi ça ressemble et du coup l'explorer visuellement, mais ensuite l'explorer physiquement, anatomiquement, pour voir ce qu'elle ressent en touchant, le clitoris, en touchant les grandes lèvres, les petites lèvres, etc. Et c'est donc comme ça, en explorant, qu'on va découvrir les sensations. Et donc, on peut aussi effectivement le faire pour l'anus.
Bien sûr. Toutes ces parties anatomiques qui étaient appelées la partie honteuse, ça veut bien montrer, ça montre bien ce que la mentalité sociale pensait de cette zone-là. Or, c'est découvrir sa sexualité, c'est découvrir son corps. Et découvrir son corps, c'est soi-même, en s'explorant. Quand on se regarde dans un miroir, on va découvrir les yeux, les oreilles, on va faire la toilette, voilà. Mais quand on va découvrir sa sexualité, donc savoir comment je suis fait, qu'est-ce qui me donne plaisir, et que ce soit avec le vagin, que ce soit avec l'anus, c'est pareil, il faut les découvrir, il faut prendre contact avec ces parties-là pour savoir simplement de quoi c'est fait, comment c'est fait. Après, les sensations que ça peut procurer. Il y a des personnes qui ne ressentent pas forcément un plaisir sexuel en se touchant, mais à ce moment-là, il faut permettre à d'autres personnes de toucher parce que peut-être que là, il va y avoir quelque chose. Ou pas du tout. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'envie sexuelle. Ce sont des personnes asexuées qui sont heureuses comme ça et pour qui la sexualité n'a aucune importance, aucune réaction, aucune attirance.
Ou sinon, parfois, ça va dépendre, ça va être à des degrés plus ou moins différents, parfois peut-être avec certaines personnes, mais ça reste assez... ça reste assez peu important, en tout cas, dans leur vie et dans leur sexualité, du coup.
Oui, bien sûr. Effectivement, après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, à savoir, bon, il y a déjà l'éducation, il y a le milieu social, le milieu culturel, donc ça, c'est important, mais aussi le point d'intérêt de la personne. Il y a des personnes qui, je vais employer le mot salope, pour moi, c'est un compliment, parce qu'une salope, c'est une personne qui profite du moment présent, qui va vivre le moment présent intensément et qui va vraiment jouir dans le sens jouir du moment, mais jouir aussi dans l'orgasme. Donc
c'est absolument pas péjoratif. Alors, toi, tu l'emploies
Non, dans les milieux fistes en général, on emploie souvent. Bon, je parle du milieu gay du fist. On l'emploie souvent et c'est un compliment. Et me dire, putain, tu es une grosse salope, ça veut dire, tu prends bien, tu te donnes bien. Mais ce n'est pas forcément une personne qui est que receveuse. C'est aussi une personne qui donne, qui reçoit. Voilà, salope, c'est la personne sexuelle qui se donne au plaisir, qui vit le plaisir. Donc, s'autoriser à être une salope est quelque chose qui est très personnel. On peut se dire, oui, mais... je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Si je fais ça, si je fais une fellation, qu'est-ce qu'il va penser mon conjoint ou mon petit ami ou, alors que, bon, taille une pipe, c'est tellement bon. Voilà, c'est l'autorisation, on se la donne soi-même.
Okay.
Et je pense que les personnes qu'on dit, ça c'est des gros salopes par la société, et ben, c'est des personnes qui se sont donné l'autorisation de vivre ça.
Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont dire que le terme salope, c'est un terme péjoratif qui est à la fois sexiste, voire aussi peut-être putophobe, donc c'est-à-dire discriminant et stigmatisant envers les femmes et envers les personnes qui sont prostituées?
Je pense que tous les mots ont un sens, ont une signification, et que ça dépend de comment on les reçoit, que cette signification va prendre vraiment un véritable une ampleur qui va être vraiment ou néfaste ou agréable. Je vais dire par exemple le mot pédé. En principe, c'est péjoratif. Pédéraste, tu es un gros pédé, oui. Mais dans notre milieu, on dit bah, « oui, je suis un gros pédé ». Un gros pédé, c'est un compliment,
Oui, il y a eu un phénomène de réappropriation, en fait, des termes pour justement en faire une force, c'est ça?
Oui. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai souffert des propos qu'avaient les gens par rapport à mon sexualité, en me traitant des tapioles, surtout que je viens d'un pays latino-américain, de la Colombie, et pendant mon adolescence, évidemment, le mot marica, grosse pédale, etc., était vraiment très vexant. Et il m'a fallu comprendre que finalement, les mots disaient la vérité. Oui, je suis homosexuel, je suis un gros pédé. Alors pourquoi m'offusquer alors qu'on dit vraiment ce que je suis? Parce que la personne le donne comme une insulte, mais moi je le reçois comme une réalité. Donc je ne réagis pas, aujourd'hui je ne réagis pas de la même façon que je le faisais quand j'avais 20 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, un sens, le mot peut avoir un sens, mais ce sens c'est moi qui donne. Et si je ne parlais pas la langue française, j'entendrais le mot salope, ça veut dire quoi? Or, maintenant, je le sais. La première fois qu'on me l'a dit dans le sens sexuel, j'étais offusqué. Parce que je me suis dit, on me compare avec une femme qui est légère, qui est une grosse pute, enfin, je ne sais pas. Et puis finalement, j'ai dit, non, c'est le contraire. C'est un compliment, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'une salope? Après, dans le mot salope, il y a plusieurs nuances. Ça peut être le comportement. Et quand c'est le comportement, des saloperies, des personnes méchantes, des personnes qui vont faire du mal, là, oui, effectivement, c'est un état qui décrit une personne qui peut être néfaste. Donc, tous les mots ont plusieurs sens. C'est à nous de savoir comment on les emploie et comment on les reçoit.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de zones honteuses, donc en te référant à l'anus. Pourquoi est-ce que les pratiques anales, de manière générale, sont honteuses? Pourquoi est-ce qu'il y a ce stigma autour de ces pratiques?
Bah déjà, ça fonctionne naturel. C'est l'anus, c'est... on va la comparer à la cloaque des oiseaux où on va déféquer et donc c'est fait pour faire caca. Le caca, c'est sale. Tout le monde le sait. Dans l'éducation que nous avons reçue, l'anus, c'est la partie qui va faire le caca. Et le caca, c'est caca bouddha, il ne faut pas toucher, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ce sont les déjections que le corps fait. Mais en réalité, tout ça, c'est la morale qui a décrété que c'était une partie sale. Or, pour revenir au fist, dans la pratique du fist, il n'y a pas de sel. Parce qu'on applique de lavement pour que l'anus, le rectum, le côlon soient propres et qu'on puisse vraiment jouer avec les mains dans un état de propreté et surtout d'apprécier vraiment les sensations. Il y a des personnes qui aiment être scats, qui aiment la matière fécale.
Donc la scatophilie, donc le plaisir qui est tiré avec le fait de jouer, de toucher, de sentir, de lécher, de manger aussi parfois des matières fécales.
Oui, tout à fait. Donc c'est évidemment que ça peut paraître pour beaucoup de gens une aberration, mais en soi, non, c'est une partie du corps, ça sort du corps, et après chacun et chacune fait ce qu'il veut. Mais donc pour la pratique du fist, je conseille de ne pas le faire avec la matière fécale, tout simplement parce que quand il y a des sels à l'intérieur de l'intestin, ça va irriter les muqueuses et donc la peau extérieure, et c'est pour cette simple raison que je le déconseille. Après, évidemment qu'on peut faire le fist avec les matières fécales.
D'accord. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui considèrent que le plaisir anal, et notamment le fist fucking, ne sont pas des pratiques pour les hommes?
Oh, je dis que c'est un grand dommage. Parce que une personne ayant un pénis avec des testicules, avec une prostate, a tout ce qu'il faut pour éprouver un énorme plaisir. Je pars du principe, j'ai été élevé dans une religion catholique, je me considère aujourd'hui comme un spirituel tout court, mais je me dis que si la nature, pour ne pas dire Dieu, n'avait pas voulu que ça s'efface, il n'aurait pas fait un muscle qui se dilate pour le prendre. Donc, je me dis que le fist fucking est surtout lié à la notion de virilité. Donc, si on a du plaisir avec le cul, c'est qu'on est pédé. Donc, si on veut être un mec viril, il ne faut surtout pas avoir plaisir. Mais, pour reprendre une phrase que dit François, mon mari, assez souvent, c'est que pour se prendre un point dans le cul, une main dans le cul, il faut être vraiment très fort et un vrai mec ou une vraie femme. Parce que,
effectivement, on peut le voir comme ça.
Oui, parce que quand on dit « Oh, une petite tapiole, n'arrive pas à le toucher », va te mettre un pain dans le cul. Alors, voilà. Donc, où elle est la virilité? Est-ce que la virilité, c'est une question de force? Dans ce cas-là, t'es fort, tu te prends d'une main dans le cul, alors là, t'es vraiment un mec. Ou vraiment une nana, je ne sais pas. Mais donc pour moi, c'est juste une question culturelle.
D'accord.
Et je pense que c'est privé de ce plaisir, c'est un peu dommage, parce que j'ai pratiqué pas mal de sexualité, pas toutes évidemment, Mais de tout ce que j'ai pratiqué, c'est le fist fucking qui m'a donné les plus grands orgasmes. C'est vraiment là où il y a plusieurs personnes qui le pratiquent. Quand elles sont dans cet orgasme, elles voient une lumière, une espèce de tunnel dans lequel il y a une lumière au fond. Il y a des personnes qui voient des anneaux. On voit des choses qui ne sont pas forcément produites par les substances hallucinogènes que l'on peut prendre. Non, c'est l'effet des endorphines du corps qui va sécréter ça. C'est l'effet de ce plaisir. Quand le corps, nous avons une nature qui nous a faite pour le plaisir. Mais le plaisir, dans notre société, est considéré comme quelque chose de malsain, de quelque chose d'interdit.
Complètement.
Tout ce qui est lié au plaisir, c'est presque honteux. Alors qu'au contraire, dans la nature, les choses se font par plaisir. Quand on voit une abeille butiner, elle est ivre de plaisir. Quand on voit les fourmis qui fabriquent de la bière pour s'enivrer, donc dans la nature, il y a des choses qui nous montrent que la nature est faite pour le plaisir. Le bonheur, c'est ça, c'est le plaisir aussi.
Et justement, tu as parlé de la prostate. Est-ce que tu peux nous parler de cet organe ?
La prostate, c'est une glande qui est propre à une personne ayant un pénis, parce que sa fonction principale, c'est de s'assurer que la production de sperme et l'éjaculation vont se faire en force, en bonne quantité, ainsi que la circulation du sang dans le corps caverneux. Donc, la prostate, elle est faite là, qui est en dessous de la vessie, et juste à côté de l'anus, donc de l'autre côté de la paroi, on va dire, ce qui fait que quand on met le doigt dans le cul, à la deuxième phalange, on est déjà en train de toucher la prostate. Quand on va stimuler la prostate, il va y avoir une sensation. Et pas seulement ça, il y a aussi le nerf pudendal, qui avant s'appelait le nerf honteux. C'est le nerf qui vient du rachis et qui va parcourir seulement les organes sexuels, les testicules ou les vagins, le pénis. Et donc c'est avec ce nerf-là, la jonction de toutes ces sensations-là, qu'on va sentir un énorme plaisir. On peut faire jouir une personne avec juste un doigt ou avec une main, avec un poing. Tout dépend de comment c'est stimulé, tout dépend de comment la personne est amenée à vivre ce plaisir-là et surtout comment elle se lâche.
C'est ce qu'on appelle chez les hommes souvent le point P.
Oui, on pense que le point P, c'est la prostate, P pour prostate, mais en fait, ce n'est pas que la prostate, c'est tout ce qu'il y a autour. Il y a, l'intestin, alors qu'il n'est pas très sensible, heureusement, parce que sinon on sentirait tout ce qui passe. Mais quand même, il y a des choses qui sont très sensibles. L'anus, par contre, lui, il est très, très sensible. Il y a énormément de terminales nerveuses. Et il y a, donc, dans ses nerfs à l'intérieur, il y a tout cet ensemble des parties du corps qui vont réagir et qui vont envoyer avec les hormones qui vont être sécrétées au cerveau ces vagues de plaisir, cette jouissance, cet orgasme qui peut aller crescendo. Et des fois, on trouve dans les poèmes des expressions du genre « je n'ai joui à mourir ».
Oui, tu parlais tout à l'heure de petite mort.
Voilà, tout à fait. Donc, pourquoi ? Parce que on se sent dans un tel état de plaisir, de bonheur, qu'on voudrait presque que le temps s'arrête là. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est une sensation qui, elle, peut se reproduire. Pas de la même façon, mais elle peut revenir, on peut la rappeler. Et dans une soirée, dans une après-midi, on peut avoir plusieurs orgasmes. C'est ça qui est merveilleux aussi.
Ouais. Et donc, toi, à quel âge est-ce que tu as découvert que tu aimais le fist et comment ?
Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui était très anal. En fait, j'ai toujours eu l'anus qui était sensible et curieux. J'ai aussi beaucoup aimé les mains d'hommes, les mains viriles, entre guillemets. C'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, ainsi comme les pieds virils, entretenus, voilà, ça m'a toujours attiré. Et étant adolescent, je me disais, j'aime les mains, j'ai envie de les lécher, j'ai envie presque de les manger, je ne sais pas, je voudrais faire quelque chose, je ne savais pas quoi. Quand il y avait la main d'un homme qui passait sur mes fesses, sur l'arrêt du cul, bah, ça me plaisait énormément. Et en faisant un peu de yoga, j'avais une certaine souplesse, je me suis dit, bon, je vais explorer mon corps. Et effectivement, donc là, j'ai découvert que j'avais plaisir avec mes doigts et aussi sur mon anus.
Donc toi-même,
moi-même,
en stimulant ton anus et l'intérieur, au niveau de la prostate et du rectum.
Voilà, donc là, bon, je ne pouvais pas rentrer la main, évidemment, mais je pouvais rentrer 1, 2, 3 doigts, 4 doigts, et ma culture, mon éducation venait à l'assaut pour me dire, oh là là, tu es un gros pervers, non mais vraiment, quelle c'est idée sale. De pratiquer ça, non mais franchement, mais il y avait quand même ce petit démon qui me disait, ah non, c'est bon, attends. Donc l'idée m'était restée un peu comme ça. Et il y a eu un film qui est sorti, qui en français s'appelait La Chasse, en anglais c'est Cruising. Et là, il y a une scène, donc l'histoire, aujourd'hui le film a mal vieilli, mais l'histoire c'est des policiers qui font une enquête dans le milieu gay parce qu'il y a un tueur en série. Et donc, un policier doit venir dans ce milieu-là, alors qu'il n'appartient pas à ce milieu, explorer le milieu pour essayer de trouver des pistes. Or, il se trouve qu'en rentrant dans ce milieu, il est rentré dans le milieu hard, c'est-à-dire le milieu cuir, le milieu où sont pratiquées des sexualités comme la pisse, la domination, le fist. Et donc là, il y avait une scène où on voyait les jambes d'un homme habillé en cuir. J'ai appris plus tard que ça s'appelait un chaps. Donc la partie devant et derrière est dégagée. Et donc qui s'allongeait, il relevait les jambes. Et un autre qui se graissait la main et le bras. D'accord. Avec une crème. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, ah, c'est possible.
Ça évoque quelque chose chez moi, oui. Et ça m'attire.
Ah oui, là je me suis dit, ça, je voudrais rencontrer quelqu'un qui puisse faire ça parce que je sais maintenant que ça peut se faire. Et comment la vie fait bien des choses, je suis venu en France à l'âge de 22 ans, je suis arrivé au mois d'août et au mois d'octobre, je suis allé à un sauna qui s'appelait l'Horizon. Où une fois par mois, il y avait la soirée rouge et noir, rouge pour le fist et noir pour le BDSM, où je me suis trouvé face à face avec un couple d'hommes qui pratiquaient le fist. Donc là, je l'ai vu en vrai, j'étais fasciné, j'étais presque ensorcelé par cette scène, et surtout par l'énergie qui se dégageait de ces deux personnes. Il y avait un tel plaisir, il y avait le râle de plaisir de la personne qui recevait, que bon, j'ai demandé si je pouvais regarder. Le donneur m'a dit oui, à condition que tu ne parles pas, parce que ça va déranger. Et voyant mon attitude, il m'a dit, est-ce que tu veux essayer? J'ai dit, jamais fait. Viens, je vais te guider. Et là, j'ai mis ma main dans ce cul. D'accord. Et c'est une découverte merveilleuse, vraiment. Rentrer dans le corps d'une personne, sentir cette partie chaude, humide, les battements du cœur, les battements du cœur, sentir les vibrations de son corps, les vibrations produites par les gémissements qu'il faisait. Voilà, j'étais plus que conquis et là je me suis dit, je suis fait pour ça en fait.
D'accord. Et donc là tu as 22 ans, donc tu découvres qu'effectivement ça c'est fait pour toi, tu adores ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, toutes les applications de rencontres, mais il y avait en France une revue où on pouvait passer des petites annonces. J'ai passé des petites annonces, je lisais aussi, et par ces petites annonces, je rencontrais des gens qui m'ont permis de m'inviter à des soirées, et dans ces soirées, j'ai rencontré d'autres personnes qui organisaient des soirées, et ainsi de suite, je suis rentré dans les milieux fistes de Paris. Et à l'époque, il y avait très peu de bars qui pratiquaient le fist. Il y avait le Keller, qui n'est pas le Keller d'aujourd'hui. C'était le lieu cuir par excellence. Il y avait le transfert aussi. Après, il y avait Mexone. Et puis, dans ces bars, on pratiquait un peu. Voilà. Mais c'était surtout le Keller était le bar cuir où le mec allait vraiment looké avec des pieds à la tête, très viril, avec leur tenue en cuir noir. Et c'était assez impressionnant et en même temps très excitant. Et le Keller aujourd'hui continue à hériter de cette aura des lieux hard. Et les patrons aujourd'hui font quelque chose vraiment d'exceptionnel parce que c'est l'un des rares endroits où on peut trouver vraiment l'ambiance pour pratiquer ça avec les douches pour se faire des lavements. Voilà. Donc, petit à petit, je me suis mis dans ce milieu, découvert aussi. Donc, alors, j'avais envie de prendre, mais malheureusement, je ne pouvais pas m'ouvrir facilement. Plus tard, j'ai appris que c'était aussi dû à mon tempérament, un peu anxieux, difficile à lâcher prise, difficile à faire confiance. Ça m'empêchait de m'ouvrir parce que j'avais peur du passage. Aujourd'hui, j'appelle ça l'appréhension du passage, c'est-à-dire le moment où on arrive à présenter les cinq doigts, on sent que ça va passer, on a très envie, mais on a très peur.
Oui.
Et donc, j'ai mis un an avant de pouvoir prendre une main. Mais pendant cette année, j'ai exercé, on va dire, en tant que donneur. J'ai appris à connaître un peu le cul, comment fonctionnait le fait de lubrifier, quel lubrifiant, mettre de la crème.
Parce que c'est un point aussi très important, la lubrification. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Essentiel, la lubrification. A contrario du vagin, l'anus ne se lubrifie pas tout seul. Donc, un petit coup de salive pour une bite, ça va. Mais pour une main, on a beau cracher dessus, ça va accrocher un peu. Donc, moi, je conseille d'utiliser un corps gras d'abord, une crème, qui va venir enduire la paroi intérieure et extérieure, la peau.
Une crème plutôt naturelle, sans produits chimiques.
Dans le milieu, on utilise le Crisco. Le Crisco, en fait, est une crème margarine qui a été créée aux États-Unis, qui est utilisée dans la cuisine américaine et qui était vraiment la crème pour le fist.
Du beurre à fist, c'est comme ça qu'on l'appelle ?
On peut l'appeler comme ça, mais en fait, le beurre à fist, c'est le nom d'une crème qui a été créée par la suite et qui s'appelle Fist Butter.
D'accord.
Mais oui, c'est le Crisco, en fait, c'est de la margarine pour la cuisine.
D'accord, ok.
Qui, à différence de la margarine française, n'a pas cette odeur d'huile vraiment. Donc, c'est pour ça qu'elle est utilisée. Et je conseille un corps gras et après un gel à base d'eau parce que c'est la mécanique de la physique. Un corps liquide à base d'eau sur un corps gras, il va glisser plus longtemps. Et surtout lubrifier, pas une petite pointe de doigt, une petite noisette. Bien lubrifier la main, même au-delà de ce qu'on pense que ça va passer. Pourquoi ? Parce que le cul est capricieux, il a sa personnalité. Des fois, il veut encore plus, des fois, il ne veut pas ça. Mais quand il veut un peu plus, il va avaler un peu. Donc, il vaut mieux que la peau de la personne qui donne soit lubrifiée.
Complètement recouverte, voire jusqu'au l'avant-bras, voire plus.
Oui, après, ça dépend de l'élasticité des intestins, mais oui, j'ai déjà fisté jusqu'à l'épaule.
Donc, d'accord.
Donc, où est-ce qu'on s'est dit, mais où est-ce qu'il met tout ça ?
Oui, justement, parce qu'on sait que les intestins, c'est plutôt enroulé, entre guillemets, où ça fait il y a des coins et des recoins. Donc, on se dit, comment est-ce que c'est possible, effectivement, d'entrer un bras est-ce que quand il est complètement à l'intérieur de l'anus, est-ce que le bras est plié dans certains sens ou est-ce qu'il est complètement tendu à l'horizontale ?
Non, évidemment, comment est-ce que c'est ? Évidemment que le bras, il va être plié, que ce soit au poignet et au coude, donc pour donner la forme du ventre, on va dire. Mais aussi, l'intestin est souple. Donc, il y a des ligaments qui vont lui permettre de se tenir en place, mais en même temps, qui vont lui donner la souplesse, déjà pour que naturellement, les matières fécales, les bols fécales passent tranquillement. Donc, ça dépend de cette souplesse, si la personne va être profonde ou pas. Après, il y a dans la morphologie de la personne et des personnes qui ne pourront pas prendre le bras. Après, ça dépend de quel bras aussi. Une personne de petite taille va pouvoir enfoncer son bras, alors qu'une personne de 2 mètres va pouvoir enfoncer jusqu'au coude. La distance est la même, évidemment, ce que la personne s'avale, c'est pas la même chose. Et donc, les intestins, on va les exercer un petit peu pour qu'ils soient souples, qu'ils puissent bouger. Et donc, on dit redresser, mais en fait, on ne redresse pas grand-chose. On va attendre juste que le côlon, puisque ça se passe dans le côlon, vienne envelopper la main, et puis l'avant-bras, et puis le bras, pour ensuite tourner un peu. Quand on est à l'épaule, vraiment, on est courbé au coude et au poignet.
D'accord. Donc là, on n'a plus une ligne droite,
non.
Mais il y a un angle qui commence à se former.
Oui, tout à fait. Mmh. Je pense que c'est instinctif. Déjà, vouloir aller tout droit, ce n'est pas possible. L'intestin, il n'est pas droit. L'intestin, il a sa forme, il faut la respecter. Et donc, je dis toujours qu'il faut séduire l'anus, mais il faut aimer l'intestin.
C'est très, très poétique.
Oh oui, mais c'est une histoire d'amour entre les mains et le cul. Donc, et c'est une histoire d'amour tout court. Donc, quand on fait la sexualité, quand on jouit, on a un orgasme, c'est qu'on a fait l'amour. Vraiment.
Effectivement.
Pour arriver à un orgasme, il faut de l'amour, pas de l'amour conjugal. Je me dis, voilà.
Pas forcément en termes de sentiments.
Je vais t'épouser. Non, on aime ce qu'on est en train de faire. On aime la personne qui est en train de nous faire et avec qui on est en train de faire ça. On aime ce moment. Et parce qu'on aime, l'orgasme va se présenter dans toute son intensité.
D'accord.
Donc, on peut faire les choses mécaniquement. Mais si on fait les choses mécaniquement, il n'y aura pas la même sensation. Mmh. Ça, c'est sûr.
Est-ce que pour toi, ta pratique du fist-fucking est sexualisée ou érotisée? Parce qu'effectivement, à la base, l'anus, le côlon, l'intestin ne sont pas, à proprement parler, des organes sexuels. Donc, est-ce que pour toi, tout ça, c'est quand même érotisé ou sexualisé?
Les deux. Érotisé dans le sens où, pour arriver au fist, on va séduire le corps, on va séduire l'anus. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a la séduction de la personne, il y a les paroles, il y a la respiration. Et sexualisé, parce que pour moi, bon, je pratique surtout le fist anal avec des hommes. Je l'ai déjà fait avec une personne ayant un vagin. Et c'est pas la même chose, parce que la cavité, pour donner un nom, est différente. Donc les sensations sont différentes. Mais forcément, pour moi, c'est sexualisé. Il y a l'érotisme, mais c'est sexualisé pourquoi? Parce qu'on touche les organes sexuels par l'intérieur. Que ce soit la prostate, ou on est en contact avec, à travers la paroi, les muscles qui vont envelopper les organes sexuels à l'intérieur, on va les toucher. Donc pour moi, c'est sexualisé aussi. Mais par contre, on peut se concentrer sur l'anus et effacer complètement la partie sexuelle, les organes génitaux. Quand je dis effacer, ça veut dire qu'on va les considérer, mais l'attention est surtout donnée à l'anus.
D'accord. Et tu as déjà donné quelques pistes par rapport à ce qui te plaît dans cette pratique. Et est-ce que tu peux un petit peu développer sur ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu en tires? Quelle sensation, quel ressenti est-ce que ça procure chez toi? Que ça soit, on peut commencer par exemple en tant que donneur.
Alors, en tant que donneur, premièrement, il y a le plaisir de toucher ce corps et de rentrer dans ce corps. Donc, il y a déjà un contact. Pour moi, le contact le plus intime, c'est le fist. Plus intime que ça, il ne peut pas y avoir. Mettre les doigts dans les narines pour arriver au cerveau, peut-être, mais bon, c'est pas, jusqu'à présent, je ne l'ai pas découvert. En tout cas, l'effet de rentrer dans un corps, et comme je disais tout à l'heure, cette sensation que j'ai eue la première fois, je l'ai toujours, à savoir la température, l'humidité, cette texture soyeuse, les contractions de la personne, les battements du cœur. On va venir sentir l'artère, les artères qui passent, il y a l'artère fémorale pas loin. Et donc, au fur et à mesure, qu'on va progresser dans l'intestin, on découvre des territoires qui sont plus ou moins vierges, plus ou moins larges, plus ou moins souples. Et donc les sensations sont à la fois tactiles, la main quand même a beaucoup de terminales nerveuses, et il y a aussi ce que la personne me communique, et puis le cérébral. Cérébralement, c'est un plaisir de me dire, je suis en train de fouiller quelqu'un par l'intérieur, vraiment, et là, vraiment, on fait, je suis dans le mec, et puis j'ai presque sa vie entre mes mains. Parce que l'acte du fist fucking donne beaucoup de plaisir, mais évidemment, il y a des risques. Donc, savoir que c'est fragile, que c'est résistant, que c'est fort et fragile en même temps.
Effectivement, ça, on va aussi l'aborder. Et en tant que receveur, du coup, parce que tu disais, quand tu as découvert la pratique la première année, pour toi, ça n'était pas possible. Et donc après, tu as réussi à recevoir un point. Qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois
Alors,
un point en
physiquement,
toi?
Déjà, il y a les mental et le physique en même temps. Hein, parce que c'est physiquement, on va sentir que l'anus commence à se dilater, qu'il y a un volume qui commence à se faire. Et dans le fait de se dilater, de se sentir rempli, il y a une sensation de jouissance. Déjà directement. Mais ça reste que le fait de stimuler l'anus avec un va-et-vient des doigts, bah, l'anus, étant donné qu'il est tellement sensible, et on a un grand plaisir. Ensuite, quand la main réussit à passer, ah bah alors là, c'est merveilleux parce qu'on se sent rempli, mais en même temps, on sent que ça bouge, on sent que ça peut continuer en profondeur. Et le volume, l'écartement, qui fait pression sur les os, qui fait pression sur les organes qui sont autour, donne vraiment une sensation d'un plaisir énorme. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour expliquer concrètement l'essence de ce plaisir-là. Mais il y a tout l'ensemble de mon corps qui joue. Je me sens vraiment affamé, on va dire, affamé de ce plaisir. Je veux que ça continue. Les mouvements vont venir exciter d'une autre façon. Donc, il y a mon corps qui réagit, bien sûr, mais il y a aussi mon mental, de me dire, ah oui, là, j'ai une belle main dans mon cul, ça fera mes plus plaisir. Parce que ce n'est pas, en fait, pour moi, ce n'est pas le fait d'avoir une main. C'est la main de quelqu'un que je veux, que je désire. Donc, c'est ça qui est important.
D'accord.
Et voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. La deuxième partie sera diffusée très prochainement. On y parlera notamment des manières de fister, des formations que propose Juan Carlos et son époux. Il nous donnera aussi de précieux conseils pour réaliser cette pratique qui comporte de sérieux risques, que ce soit pour la personne qui se fait fister que pour la personne qui fiste. Et enfin, il nous recommandera aussi quelques livres pour continuer notre exploration de cet univers. Si vous souhaitez continuer de découvrir le travail et les ateliers proposés par Juan Carlos, vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram ainsi que sur son site internet Juan Carlos de la Fistinière. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé donc, de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux.